En une dizaine d'années, la plateforme de streaming Twitch est devenue l'un des sites les plus consultés dans le monde. Avec près de 2,5 millions de spectateurs chaque mois, la plateforme est devenue une forme de divertissement et d'information, comme peuvent l'être YouTube ou encore la télévision. Une plateforme qui a fait naître des créateurs et des créatrices de tous horizons pour parler de tout. Et parfois de rien, ça peut arriver. Et parmi ces créatrices, l'une des clermontoises les plus connues d'Internet n'est autre que Florence, alias Angle Droit. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur RVA.
Ben, merci pour l'invitation, c'est gentil. Ouais,
avec grand plaisir. Alors, vous n'êtes pas là par hasard, puisque vous êtes dans le jury du Festival du court-métrage international à Clermont-Ferrand.
Ouais.
Est-ce que déjà, vous pourriez nous dire un petit peu cette expérience de jury, comment ça s'est passé sur cette semaine? C'était une première pour vous?
C'était la première fois que j'étais jury, donc ça a changé beaucoup de ce que je fais habituellement. On était sur une sélection pop-up. Donc c'est que des courts-métrages qui sont disponibles, notamment bah, sur YouTube, justement. Et on était avec Juliette Tressanini et Jérémy Detello. Et c'était bah, vraiment une bonne semaine, ça a bien matché entre nous. On a eu la chance que la séance où il y avait 6 courts-métrages étaient tous très qualitatifs. Il n'y en a pas un où on s'est dit « mais qu'est-ce que ça fait là ?» ou ce genre de choses. C'était vraiment, vraiment tout très bien. Et du coup, c'était difficile de faire un choix. C'était un peu un crève-cœur.
Oui, j'imagine. Vous êtes concertés, du coup, parmi les 6. Comment est-ce qu'on choisit, justement, un gagnant parmi les 6 courts-métrages?
Ils sont très différents. C'est pour ça que c'est difficile. C'est qu'on a vraiment l'impression de comparer des choses, des formats très, très courts avec des formats plus longs, quand même. Il y en a qui font quasiment une vingtaine de minutes. Il y en a qui font une minute. Donc c'est difficile. C'est pas les mêmes thèmes. Ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on se dit, c'est quoi vos coups de cœur à vous? Et il y a aussi l'idée d'argumenter un petit peu parce qu'il y a des choses où, par exemple, on va se dire « Ah, mais ça, j'y avais pas pensé, c'est intéressant, du coup, je revois le court-métrage d'une autre façon. » Enfin, du coup, il y a quand même de la discussion, mais avant tout, c'est vraiment se dire « Bon, quels sont vos coups de cœur ?»
Bien sûr, oui. Et puis, on le voit, hein, ça se démocratise de plus en plus, que ce soit à Clermont-Ferrand ou dans d'autres festivals. Internet s'invite aussi dans des festivals prestigieux, entre guillemets. C'est important, selon vous, de mettre un peu d'Internet aussi dans ces festivals de renommée internationale?
En fait, il y a une culture Internet et ces codes qu'on ne voit pas à la télé et qui représentent, qui touchent quand même beaucoup de gens, parce qu'Internet, ce n'est pas quelque chose qui est récent maintenant. Ça fait plus de 20 ans qu'il y a des créateurs qui sont sur la plateforme avec leurs propres codes. Et ça faisait du bien, en fait, de voir dans la sélection du court-métrage des trucs qui reprennent un peu ces codes-là. Même si je trouve que de toute façon, les festivals du court peuvent s'apparenter à de la culture web parfois.
Ouais. Et surtout sur l'expérimental, des fois.
Voilà, exactement. Ouais. Exactement. Et la culture web, c'est plein de choses, en fait. Ça veut tout et rien dire. Et maintenant, c'est pas... maintenant, c'est une banalité de le dire, mais c'est pas un truc qui concerne les jeunes de 15 à 18, en fait. Il y a plein de personnes de 40, 50 ans qui consomment plus YouTube que la télé et qui ont ces codes-là aussi, quoi. Oui.
Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu de la culture populaire, finalement.
Oui, c'est de la culture populaire, ouais. Et moi, je trouve ça important de pas avoir du mépris, justement, pour cette culture populaire. Mais j'ai jamais eu l'impression que le Festival du court-métrage avait ce mépris-là pour la culture web. Façon.
Est-ce que vous avez eu le temps de faire d'autres séances peut-être à Clermont-Ferrand? Je sais que vous êtes une grande férue du festival.
Ouais, pas autant que j'aurais voulu, mais je crois que tous les festivaliers se disent « on n'a pas fait assez de séances ». Je crois que c'est un truc un peu universel. Oui, j'ai fait d'autres séances, mais c'est surtout là ce week-end, parce que là, on avait des obligations pour le jury. Et là, maintenant que c'est terminé, qu'on a rendu les prix, je vais pouvoir m'enchaîner des séances. Ouais. Ça va être très chouette aussi.
Bon, trop, trop bien. En tout cas, vous, bien sûr, vous venez d'Internet, si on peut dire, même si au départ, votre parcours professionnel, vous ne dessinez pas forcément à devenir une créatrice sur Twitch.
Ah, vraiment pas.
On peut le dire. Hein, vous êtes allé jusqu'au master en droit du travail, si je ne dis pas de bêtises.
Exactement, ouais.
C'était difficile au départ de passer justement d'un domaine à l'autre. Est-ce qu'il y a des passerelles quand même possibles?
Les passerelles, non. En fait, il y a autant de façons d'aller vers de l'audiovisuel. Il y a des gens qui font des écoles et tout ça, mais c'est plus pour l'aspect technique. Pour être créateur, on a tous des profils qui sont très différents. Il y a des gens qui ont fait des études là-dedans. Il y a des gens qui se sont lancés sur un coup de tête, suite à un burn-out, ce genre de choses.
Enfin, bien sûr.
Tellement d'histoires différentes. Moi, c'était pas du tout le projet. À la base, je voulais être avocate en droit du travail. J'aimais vraiment profondément le droit. Hein. C'était pas du tout une voie que j'avais choisie par dépit ou ce genre de choses. Et un jour, j'ai un peu pété un plomb et je me suis dit que j'avais envie de faire quelque chose d'assez créatif. Mais il n'y avait pas du tout de plan de carrière, de me dire « Ah, je vais me mettre sur Twitch ». Ça s'est un peu fait au fur et à mesure. Où j'avais commencé par faire des vidéos qui parlaient de droit, qui faisaient de la vulgarisation juridique, du coup. En me disant que j'allais quand même être avocate. Et puis au fur et à mesure, j'y ai pris goût. Et petit à petit, il y a aussi l'aspect rencontre qui est très important dans notre milieu, où j'avais pas mal de gens autour de moi qui étaient sur Twitch, en fait, qui faisaient des streams. Et je me suis oh, ça a l'air marrant, on pourrait essayer. Et c'était marrant en fait, donc j'ai continué.
Parce que oui, à vos débuts sur YouTube, enfin, on dirait presque que vous avez fait du court-métrage avec ces petites animations avec votre personnage de dinosaure.
Oui, le stop-motion.
Ouais, stop-motion, ouais. Ouais. On peut dire que c'est la réalisation quelque part.
C'était de la réal, ouais, ouais. C'est long de faire du stop-motion. Au montage, c'est très pratique, mais au tournage, ça, c'est vraiment très très long.
J'imagine, ouais.
Je me suis un peu maudite de faire du stop-motion, mais c'était vraiment rigolo à faire et je regrette pas du tout d'avoir choisi cette méthode-là en vrai.
La réalisation, c'est quelque chose qui pourrait vous plaire un jour. Je sais pas, vous avez notamment dans le Vortex, en termes de collaboration sur Arte, ouais, pour réaliser des épisodes du Vortex. Est-ce que ça pourrait peut-être vous plaire, je sais pas, même de la fiction ou pas, hein, forcément.
Ben moi, j'aimerais bien, parce que quand j'étais ado, j'étais passionnée de photos et je suis très intéressée par la construction des plans. C'est quelque chose auquel je vais faire très attention, même dans la photo ou dans les choses. Donc à terme, bah oui, pourquoi pas. En fait, ce qui est bien dans notre métier, c'est qu'on ne s'interdit pas grand-chose en réalité. Après, c'est une question de moyens aussi.
Et d'opportunités, enfin, voilà. Comme beaucoup.
Mais je sais aussi qu'on peut faire des trucs avec trois bouts de ficelle, quoi.
En tout cas, pour l'instant, vous êtes plutôt bien occupé sur Twitch, on peut le dire. Sur le plan quantitatif, votre communauté qui s'appelle la pire commu. D'ailleurs, pourquoi la pire commu ?
Il le mérite. En fait, ma communauté est très très taquine à mon encontre, gentiment, hein, j'entends, très très taquine, et une fois je leur ai dit, vous êtes vraiment la pire communauté qu'un streamer puisse avoir, sur le ton de la blague bien sûr,
hein. Bien sûr.
Et ça leur a beaucoup plu, et maintenant ils sont très très attachés au fait que je continue de les appeler comme ça.
D'accord.
C'est-à-dire que même quand je leur fais des compliments, ils se braquent un petit peu en disant non, on a un titre à garder, on est la pire commu. Donc c'est pas vraiment ma création, c'est eux qui se sont désignés comme ça.
D'accord, bon, bah, alors c'est que c'est accepté alors dans ce cas. Oui. Une commu qui rassemble quand même 258 000 followers sur Twitch quand même, hein, plus de 5 000 heures diffusées sur la plateforme, soit 214 jours consécutifs, si on devait tout mettre bout à bout, je sais pas si vous avez déjà calculé ça.
Non, mais... ça fait beaucoup quand même.
Ça fait beaucoup quand même, c'est ça. Et un pic d'audience à plus de 23 000 spectateurs lors du Z-Event 2022, donc c'est un événement caritatif où des streamers donc, se réunissent pour faire des, on va dire engager les viewers à faire des dons pour des associations, que ce soit écologique ou sociale. Pour reprendre vos mots au Z-Event 2021, lorsque vous avez récolté plus de 100 000 euros, c'est un moment assez émouvant, on peut le dire, mais j'imagine pour vous surtout, c'était pour l'association Action contre la faim, vous avez dit que le streaming avait changé votre vie, on peut le dire, le streaming a vraiment changé de vie, Internet a changé votre vie, ouais.
Internet a toujours changé ma vie parce que je pense qu'on est beaucoup de ma génération à avoir créé des liens amicaux très jeunes. Enfin, moi, dès 12-13 ans, j'ai toujours fréquenté Internet et j'ai toujours eu des amis sur Internet, des amis que j'ai encore à l'heure actuelle. Et je pense que ce parcours-là, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent s'y identifier. Donc, Internet avait déjà changé ma vie à ce moment-là. Et en fait, avec le recul, je me dis que c'était logique que je sois dessus pour mon métier, finalement. Et oui, ça a vraiment changé ma vie, ce métier a changé ma vie, je me sens très épanouie dedans et je sais que j'ai une chance folle de pouvoir faire ce que je fais. Donc oui.
Est-ce qu'il y a eu un point de bascule ? Est-ce que c'est le Z-Event, GDRPZ ou la team de lundi ? Je sais pas. Est-ce que vous sentez qu'il y a eu un moment charnière dans la carrière, entre guillemets ?
Le point de bascule pour moi, il y en a eu plusieurs. Il y a eu le Vortex, je pense aussi, qui a permis de faire ma première rentrée d'argent rémunérée en fait, hein, pour un projet. Donc là, c'était sur YouTube. Et l'autre point de bascule, c'est vraiment j'étais sur Twitch avant le confinement. Mais c'est vrai que le confinement, il y a beaucoup de gens qui ont découvert la plateforme à ce moment-là. Et on a eu un boom d'audience collectif. Hein, c'est pas voilà. On a eu un boom d'audience collective parce que les gens étaient pour beaucoup seuls chez eux et ils avaient besoin d'une interaction par écran interposé mais en direct. Et beaucoup de gens ont trouvé Twitch comme un réconfort. Enfin, c'est des choses que les gens nous disent encore, hein, donc à quel point ça a marqué collectivement notre milieu. Et ça coïncide plus ou moins avec la période à laquelle j'ai pu en vivre, plus ou moins. Donc pour moi, c'est ça l'élément charnière. Après, le The Event en a été un autre et tout ça, mais c'est un amoncellement de plein de moments très forts qui permettent de consolider tout ça, on va dire.
Oui, on peut le dire, parce que vous avez commencé le streaming vers 2018, c'est ça ?
J'ai commencé en septembre 2019, okay. Je crois.
D'accord. Bon, on va dire, dans ces eaux-là, donc forcément, ouais, le confinement, ça a dû vraiment exploser. On était tous de toute façon disponibles, on
c'est
peut
ça.
Le dire. Donc,
c'est ça. Voilà. Et il y a beaucoup de gens qui ont découvert la plateforme à ce moment-là. Je ne sais plus de combien pourcentage le trafic de Twitch a augmenté, mais c'est vraiment quelque chose qui a fait... on voit la courbe, ça fait vraiment... hop là un gros pic comme ça, en mars.
Alors forcément, il y a beaucoup de créatrices qui se sont développées sur Twitch. Aujourd'hui, on peut le dire, elles sont au cœur de l'actualité parce qu'on parle beaucoup de harcèlement voilà, vers certaines créatrices créatrice, je pense à Ultia évidemment, forcément. Aujourd'hui, vous, en tant que créatrice, vous vous sentez respectée, honnêtement, sur Twitch, sur la plateforme, sur Internet en général? C'est une question un peu comme ça de bout en blanc, c'est un peu compliqué. Mais est-ce que, enfin, je sais pas, on a l'impression que les créatrices sont plus la cible en tout cas que les créateurs, si je puis faire une différence.
C'est certain. Les créateurs de contenu, de manière générale, sont une cible de toute façon parce que les gens vont avoir envie de donner leur avis sans même écouter ce que la personne peut dire, ça, peu importe le genre. Pour les femmes, et pas que, hein, aussi pour les minorités d'une manière générale, enfin, les femmes ne sont pas une minorité, mais. On voit aussi que les LGBT sont aussi ciblés. Il y a plein de personnes qui se font focus entre guillemets. En tant que femme, oui, c'est clair qu'on le ressent, que ce soit en public, que ce soit en privé, que ce soit. Enfin, c'est sûr que c'est quelque chose qui est très qui est difficile à gérer. Mais il y a quand même des femmes qui se font plus focus que d'autres, quand même. On a pris l'exemple d'Ultia, très clairement, c'est sans commune mesure. Voilà.
Ouais, parce que du coup, elle est même allée jusqu'à la case justice, si je puis dire.
C'est assez difficile parce qu'il y a un petit côté où il y a un facteur chance, en fait, en réalité. Pourquoi plus cette personne qu'une autre, on ne sait pas trop. Et l'autre versant du problème, c'est qu'on a pas mal de journalistes qui abordent les créatrices de contenu seulement sous cet angle-là. Et qu'en fait, le harcèlement, c'est vrai que c'est une thématique dont il faut parler, mais quand on est abordé que comme victime de cyberharcèlement, il y a un peu ce côté où c'est un peu le serpent qui se mord la queue, où en fait, on est réduite à ça.
Oui, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Enfin, les créatrices sont tout autant créatrices que les créateurs, je me répète. Et surtout, ça apporte une patte que les créateurs n'ont pas, je trouve. Des fois, des streams un peu plus chill, ou alors on va aller sur des thèmes que n'abordent pas les hommes, on peut le dire. Donc, c'est aussi important, je pense, de les mettre en avant sur Twitch.
On le voit, les femmes abordent beaucoup plus des sujets sociétaux, parlent beaucoup plus de santé mentale que les hommes, même si maintenant, globalement, beaucoup de gens parlent de santé mentale. Et puis, il y a quand même une modération dans les propos où, globalement, je sais que les communautés en général, pas forcément la mienne, se sentent un peu plus en sécurité parce que les femmes ont tendance à moins faire de blagues homophobes, transphobes, racistes, etc.
Aujourd'hui, c'est important, on peut le dire.
Il y a clairement des gens pour qui c'est très important, et je comprends mille fois, parce que soit c'est des concernés, soit c'est des gens pour qui les problématiques sont importantes. Et les femmes aussi sont. Enfin, les femmes et les minorités en général prennent vachement plus position aussi publiquement, je trouve.
Bien sûr, oui. Oui, donc forcément, elles sont plus amenées à être des cibles.
Voilà, exactement.
Mais mise ça de côté, on peut le dire, le quotidien sur Twitch se passe très bien. Enfin, j'imagine, en tout cas, ça a l'air en tout cas de rouler avec votre communauté, tout ça. C'est plutôt positif, en fait,
moi,
dans l'ensemble.
Moi, je me plains pas. Hein. Moi, je
me
sens très... Moi, je me trouve toujours très privilégiée. De toute façon, faire un métier qu'on aime, c'est déjà un privilège en soi, je trouve. Faire un métier qu'on aime et qui nous permet de vivre confortablement, c'est vraiment, pour moi, le summum du privilège. Et je crois que c'est vraiment quelque chose que je me dis vraiment tous les jours. Qu'est-ce que j'ai de la chance de pouvoir faire ce métier. Je joue aux jeux vidéo et je sais qu'il y a des gens à qui ça fait du bien dans leur quotidien d'avoir ce contenu-là. Donc, c'est vraiment trop positif, quoi.
Récemment, un truc très positif qui vous arrivait, c'est Table Squash, je trouve.
À
titre, en tout cas, de spectateur, je trouve que ça vous a débloqué quelque chose, j'ai l'impression.
Ah, peut-être, ouais.
Je sais pas, je parle en tant que spectateur.
Ouais, Table Quest, pour ceux qui ne savent pas, c'est... on fait beaucoup de jeux de rôle sur Internet, avec... Donc, on incarne un personnage et on essaie de rester dans ce personnage où on vit des situations sous la houlette d'un maître du jeu. Et alors, de façon assez étonnante, c'est quelque chose d'assez niche, mais sur le Twitch français, ça marche extrêmement bien. Il y a un public qui est énorme par rapport à ça. Et là, on fait une campagne sur plusieurs épisodes et c'est vraiment trop bien. On a une dynamique de groupe qui est très, très cool. On a aussi un maître du jeu, Lincus, qui est vraiment exceptionnel. Franchement, le crédit lui revient beaucoup parce que on peut avoir des très bons personnages si le MJ, comme on l'appelle, n'est pas bon, ça ne suit pas.
Il y a un travail derrière monstrueux en fait, pour avoir toutes les possibilités.
Phénoménal. Sans trop en dire pour ceux qui ne sont pas à jour pour le dernier épisode, mais là, par exemple, on a un personnage qui était dans de beaux draps, on va dire. Le MJ avait pris une solution en fonction de chaque lancer de dés entre 1 et 20. Donc, il faut imaginer une situation à chaque fois qui soit cohérente pour 20 jets de dés différents. Et il n'y a pas que ça à gérer sur toute la série.
Il y a un art de possibilités incroyable.
Ouais.
Mais en tout cas, voilà, j'espère qu'on verra peut-être dans d'autres jeux RP. C'est
vrai, ah bon,
c'est,
moi c'est je très, veux trop cool. Continuer à faire ça. C'est trop marrant en vrai de faire du jeu de rôle. C'est trop trop rigolo. Je vous conseille d'essayer parce que c'est pas besoin d'être filmé pour en faire.
Il y a plein d'événements auxquels vous participez, bien sûr. Je pense au MSF Quest, si j'ai pas de bêtises. Il y a évidemment le Z-Event parce que c'est le plus gros. Et lors du Z-Event 2024, vous avez réalisé un quiz avec un autre streamer. Mm-hmm. Un certain, voilà, vous sentez venir. Un certain Mintos qui régulièrement s'auto-proclame Auvergnat. Oui. Alors il paraît qu'il a de la famille en Haute-Loire, mais il est surtout stéphanois, on rappelle. Et malgré un résultat lamentable, hein, on va être honnête, vous lui avez quand même donné un diplôme de citoyenneté auvergnate.
Oui.
Voilà. C'est par faiblesse, par...
C'était une belle cause qu'on défendait. Donc je me suis dit, on est dans un événement caritatif, on va être sympa, on va pas faire de vagues.
Bien sûr, oui.
Mais en réalité, non, les réponses étaient plus que décevantes.
Oui, on peut le dire. Du coup, on a envie d'avoir une petite revanche, et c'est à votre tour d'avoir un quiz auvergnat.
Si je me loupe, c'est vraiment trop la honte. J'espère que ça va aller. Je n'ai pas révisé avant de venir en plus. Donc,
Ça va se passer. On a une dizaine de questions. Première question, ça va concerner Clermont-Ferrand. À 10 000 près, combien est-ce qu'il y a d'habitants à Clermont-Ferrand?
Clermont ou sa banlieue urbaine?
Non, juste Clermont, on va dire.
Juste Clermont?
Ouais.
C'est dur. j'aurais dit juste Clermont, j'aurais dit 180 000.
Ah, vous êtes un peu haut. C'était 147 751. Voilà, au dernier recensement de 2022. Voilà. Mais peut-être qu'on a un peu augmenté d'ici depuis, je ne sais pas, c'est possible.
peut-être qu'il y a eu un boom entre-temps.
Un peu plus dur, peut-être. Est-ce que vous pouvez me citer 5 volcans de la chaîne des Puys?
Volcans, alors Lamptéji, ouais. Le Puy de la Vache, je ne suis pas sûre c'était un volcan.
Si.
Bah, le Puy de Dôme, évidemment.
Oui. Ça fait 3.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le Puy des Goules.
Oui, tout à fait.
J'aime bien le nom de celui-là.
Il a longtemps été sur les bouteilles de Volvic.
Bah, Pavin, du coup, non?
Le lac Pavin, ouais. C'est un volcan, oui, tout à fait. Et on peut le considérer dans la chaîne des puits, oui. Donc, mais sur la bouteille de Volvic, c'est le Puy de Pariou, pardon.
Ah, le Pariou, je l'avais oublié. Oui. Non, en plus, il a un nom trop mignon, je trouve, le Pariou.
Donc, voilà. Autre question, vrai ou faux, le pont du Cantal est plus haut que le Puy de Sancy?
Le pont du Cantal?
Ouais, le pont du Cantal est plus haut que le Puy de Sancy, vrai ou faux?
Ah, faux, c'est un piège.
Ouais, c'est faux. Le pont du Cantal, il fait 1855 mètres et le Puy de Sancy, 1885 mètres.
Ah, c'est pas grand-chose quand
même.
Non,
c'est pas grand-chose. Mais le Sancy est plus grand. quelle ville, le chef-lieu de l'Allier?
Moulins.
Oui, bonne réponse. En quelle année a été inauguré le parc Vulcania?
Waouh.
Ça, c'est un peu plus dur, je reconnais.
Ouais, c'est dur. Bah, c'est Giscard. Mais il n'était plus président, il devait être à la région à ce moment-là. Donc attends, je calcule, ça devait être dans les années 90, je pense.
Un peu plus.
Un peu plus tard.
Un peu plus tard, oui.
Toujours au 20e?
Non, on a passé un siècle.
Ok, 2002 alors.
Ouais, 2002, c'est sa bonne réponse du premier coup.
J'ai eu beaucoup d'indices quand même. Hein.
2002, oui. Je vous pose cette question parce que c'est vrai que Vulcania, c'est revenu en running gag pendant un temps, c'est quand même assez drôle.
Oui, alors pour des raisons, je ne sais pas si on peut trop les dire à la radio.
Malheureusement.
Mais oui, j'ai l'habitude de streamer avec des streamers tous les lundis soirs. Et du coup, effectivement, on a des gags un petit peu réguliers, notamment Mintos qui se proclame Auvergnat, oui. Alors qu'il est stéphanois,
bien sûr.
On rappelle. Et oui, il fait beaucoup de vannes sur Vulcania et ça me fait rire parce que c'est des noms que j'ai pas souvent l'occasion d'entendre dès que je suis plus à Clermont. Du coup, ça me fait un peu plaisir en vrai aussi.
J'imagine. quelle est la spécialité du Puy-en-Velay?
Les lentilles.
Oui, bonne réponse. Comment se nomme la cathédrale de Clermont-Ferrand?
C'est dur, Notre-Dame de l'Assomption, non?
Oui, c'est ça, bonne réponse. Vrai ou faux, Michelin est la seule entreprise du CAC 40 à ne pas avoir son siège à Paris?
Alors, je crois que c'est vrai, mais ça a peut-être changé. Non,
c'est vrai.
Non, c'est vrai.
C'est
hein.
vrai, oui, tout à fait. C'est la seule à avoir son siège, du coup, à Clermont-Ferrand, donc c'est quand même plutôt sympa. Comment s'appellent les habitants du Cantal?
Les Cantalous, non, mais je sais pas.
Les Cantaliens.
Les Cantaliens?
Ouais,
je crois que j'ai jamais entendu ce terme, je crois.
Ouais, Cantaliens. C'est un peu plus dur pour la Haute-Loire, est-ce que vous savez?
Il y a toujours une blague quand c'est haut quelque chose, il y a toujours des blagues. Non, franchement, je ne l'ai pas.
Ce sera alti-ligérien.
C'est un piège, c'est vraiment une question de questions pour un
champion. Oui, complètement. Oui, ça serait peut-être plus pour étoile, ça. Combien de fois l'ASM a-t-elle remporté le top 14?
2 fois.
Ouais, vous avez les années ou pas? C'est un peu plus dur, j'avoue. Mais déjà, c'est bonne réponse.
2014.
Ah, pas loin, mais non.
2015.
Non.
Ils étaient en finale, alors, ça veut dire.
Oui, on était en finale, c'est vrai.
Je me demande s'il y a... Je sais qu'il y a 2 années assez éloignées, genre il y a 2021 je crois.
Non, 2010 et 2017.
2010.
Ouais, 2010 du coup face à Perpignan et 2017 face à Toulon.
Ok.
Voilà, et où on avait fait un séisme à la place de Jaude. Mais ça c'est.
Ça je m'en souviens.
Ouais.
Ça je me souviens c'est qu'il y avait eu des constatations un peu de mouvement sismique.
Ouais, tout à fait.
C'est mais j'y étais les 2 fois en plus place de Jaude, mais c'est juste que je confonds les années quoi.
Bon bah bravo, c'est plutôt une victoire je pense.
Ouais, ouais, je mérite mon titre contrairement à...
Vous méritez votre titre, oui on peut le dire. Ça, vous pouvez en décerner donc à qui vous voulez, il n'y a pas de souci. Je vous propose un deuxième quiz un peu plus volcanique, où je fais des questions explosives et vous avez des réponses effusives.
Ok.
Voilà. Première question, le jeu que vous avez préféré streamer?
Baldur's Gate 3.
Ok, celui qui vous a procuré le plus d'émotions?
Baldur's Gate 3.
Ok, très bien. Vous pouvez vous répéter, il n'y a pas de souci. Celui sur lequel vous avez le plus crié?
Oula, il y en a beaucoup. Je gueule pas beaucoup en stream, mais les jeux d'horreur ont tendance à me faire couiner parce que je surréagis très fort à ce genre de choses. Donc il y a un jeu qui s'appelle In Silence où j'ai beaucoup crié. Mais j'ai aussi beaucoup crié dans les From Software, donc Dark Souls 3, Elden Ring, soit de peur, soit de rage, ce qui ne m'arrive jamais normalement, mais ce jeu déclenche quelque chose en moi que je découvre.
Oui, oui, on peut le dire, c'est pas votre marque de fabrique trop de crier par rapport à d'autres streamers.
Non, moi je suis assez calme, justement, on me dit souvent, ah, ces streams sont chill, et puis après il y a Elden Ring qui arrive, et là je crie quoi.
Le jeu qui vous brûle d'envie de faire en stream?
Oh, il y en a tellement. Outer Wilds.
Outer Wilds, ouais. Mm. On vous a pas spoilé ni rien pour l'instant.
C'est pour ça qu'il faut que je le fasse.
Ok, il faut le faire alors. Très bien. Le jeu que vous attendez le plus cette année, est-ce qu'il y a une nouveauté peut-être dans l'année que vous attendez
Ouais, il y a beaucoup de belles sorties. Franchement, je dirais un truc très conventionnel, mais GTA 6. Hein.
Ah bah oui, mais vous avez raison. Hein. Mm. C'est le plus attendu, hein, c'est clair. Hein.
Si, il y a un autre petit jeu qui me tente, c'est Shepherds. C'est un jeu où on incarne un chien de berger qui garde des moutons.
Ok, ça a l'air trop mignon. Trop bien.
On parle vraiment de la grosse surproduction au tout petit jeu indé. voilà, ça fait un gros.
C'est important aussi. L'événement qui vous tient le plus à cœur?
Sur Twitch?
Ouais, sur Twitch.
J'y participe pas, mais j'adore Speedon.
Ouais, Speedon, ouais.
J'adore Speedon parce que Speedon, c'est un marathon caritatif qui met en avant le speedrun. Et où le but donc, du speedrun, c'est de finir un jeu vidéo le plus vite possible. Donc, il y a cet objectif de battre toujours des records. Et il y a une très belle mentalité dans le speedrun où, en fait, on ne réussit pas un record tout seul. Où, en fait, il faut qu'il y ait des gens qui cherchent ce qu'on appelle les cuts, donc les endroits où on va pouvoir passer dans une texture pour aller plus vite. Ou
gagner du temps, ouais, tout simplement.
Pour gagner du temps. Et du coup, c'est, en fait, chaque record est une œuvre collective et je trouve qu'il y a une trop belle philosophie derrière ça. Et l'événement Speedon, donc ça met le speedrun en avant. Et il y a vraiment ce côté où les commentateurs vulgarisent extrêmement bien ce qui se passe à l'écran pour que même si on n'a jamais touché au jeu, même si on ne le connaît pas, on comprend ce qui se passe et on comprend pourquoi c'est dur. Et comme c'est à la fin du mois, là, je trouve que c'est important de parler de Speedon.
Ouais, c'est vraiment dans quelques jours. Donc,
ce sera mi-cheval entre février et mars.
Ça, ouais.
Voilà.
Donc, il ne faut pas hésiter à regarder. Et je me demandais, parce que vous-même, vous avez fait du speedrun sur Céleste.
Ouais, ouais.
Ça vous dirait pas de proposer une run un jour?
Je n'ai pas le niveau.
Non, pas le niveau.
J'ai eu la bonne idée de streamer, de speedrunner l'un des jeux les plus speedrunnés au monde. Donc, il dit, beaucoup de speedrunners disent beaucoup de talents énormes. Donc, je suis une piètre speedrunneuse par rapport aux autres, mais en fait le speedrun c'est pas forcément le but de faire tous les records, c'est soi contre soi aussi.
Oui, c'est vraiment une bataille aussi contre ses propres névroses, j'imagine.
Exactement.
Au sein de la team du lundi, qui est le personnage principal?
On est tous notre personnage principal en quelque sorte, parce que tout le monde anime son stream, et tout le monde a sa communauté et tout ça, donc franchement je veux dire un truc trop corpo, mais on est tous le personnage principal. Okay. Finalement,
très bien. Mais du coup, une autre question: qui se croit le personnage principal dans la team du lundi?
Fred.
Ouais. Ouais, vous pensez que Fred est
Fred.
Très bien. Ça va bien entre vous? Parce que des fois on sent une petite tension des fois en stream, ou c'est peut-être moi, je sais pas.
Non, c'est en fait c'est comme les en fait, on est vraiment amis. En fait, dans ces autant, il peut y avoir des vidéos sur YouTube ou même des streams où des fois les gens ne se connaissent pas spécialement. Mais nous, en fait, on est vraiment une bande de potes où on discute en dehors des streams et tout ça. Enfin, et du coup, en fait, c'est comme n'importe quelle bande de potes, ça va se vanner dans tous les sens. Puis des fois, il y a peut-être une vanne qui va être moins bien prise et puis voilà. Puis en fait, après, on va en discuter. Et puis, enfin, c'est franchement, c'est comme n'importe quel groupe d'amis. Donc voilà.
Okay.
Sauf qu'il y a plein de gens qui nous écoutent.
Exactement. Il y a des milliers de personnes qui vous regardent. Et enfin, une dernière question: quel est ce talent plus vraiment caché que vous avez avec un animal marin?
Ah, je sais pas si ça va s'entendre au micro.
Bon, si, je pense. Je vais essayer de le bien régler.
J'ai un talent nul que j'ai jamais mis dans mon CV, j'ai jamais eu l'occasion, mais je sais faire le cri du dauphin et je ne sais pas comment j'ai appris à faire ça.
Est-ce qu'on peut avoir une démo?
Ouais, je peux faire une démo.
C'est nickel, vraiment, mais on est... là, je suis à l'océan, vraiment.
Et à chaque fois, il y a des gens qui pensent que je rajoute, avec notre table de son et tout, on peut rajouter des sons et tout ça. À chaque fois, les gens, ils se disent, non, mais c'est un... Enfin, tu le fais pas pour de vrai. Et je... Si,
non.
C'est mon talent, me l'enlevez pas.
Là, on a la preuve, en tout cas, en direct. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Angle Droit, d'être venu au micro de RVA.
Merci pour l'invitation, c'est très cool.
Je rappelle donc qu'on peut vous retrouver sur la plateforme Twitch, ouais. Sur votre chaîne, bien sûr. On vous retrouvera aussi certainement sur Speedon, peut-être dans quelques jours, voilà, dans le public. Ou je
dans
ne
le
sais
public,
pas. Dans
plutôt.
Public,
ouais, dans
plutôt
le public.
Dans le public. Pas sur scène, en tout cas, pas en speedrun. Voilà, pour des live discussions, mais aussi des parties de jeu un peu plus bruyantes. Voilà, ça peut arriver.
La plupart du temps, c'est calme.
Oui, c'est calme quand même, on peut le dire. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2025? Je sais pas.
La continuité en fait de ce qui se passe actuellement, parce que à l'heure actuelle je fais beaucoup de nouvelles choses, une campagne de jeux de rôle sur le long terme, faire partie d'un jury pour le festival du court-métrage, et j'aime bien la nouveauté, les premières fois et tout ça, donc j'ai envie de faire des nouvelles choses pour la première fois.
Et ben c'est ce qu'on vous souhaite alors pour 2025.
Merci beaucoup. Merci, c'est gentil.